Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujima, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Au mois de novembre de l'année dernière, 359 résolutions ont été issues des états généraux de la justice qui se sont tenues à Kinshasa. Tout un canevas a été adopté pour la mise en œuvre de ces résolutions dont certaines sont déjà d'application. Cependant, au cours de 6 assises, élus de proposition phare qui essaie de remplacer les conseils supérieurs de la magistrature par les conseils supérieurs de la justice dans lequel siégerait entre autres le président de la République et le ministre de la Justice au côté des magistrats n'avait pas fait l'unanimité parmi les participants. Cette proposition a été contestée par les syndicats des magistrats, estimant que cela remettra en cause l'indépendance de la magistrature. À ces jours, à la lumière de la polémique suscitée dans l'affaire Constant Mutamba, accusé des détournements présumés des 19 millions de dollars destinés à la construction des prisons à Kisangani, certains analystes politiques estiment qu'il y a nécessité de réformer davantage la justice congolaise. En effet, dans une lettre adressée le 10 juin dernier au procureur général près la Cour de cassation, les ministre de la Justice Constant Mutamba refusait que son dossier soit traité par le chef du parquet, ses magistrats, au motif d'une partialité et inimitié à son égard, une recusation qualifiée par le parquet général de manœuvre dilatoire, ce qui relance les débats sur l'impartialité de la justice congolaise aussi bien pour les citoyens lambda que pour des personnes ayant certains privilèges au vu de leur position sociale ou politique. Que pensez-vous de l'indépendance de la magistrature et quels mécanismes mettre en place pour une justice impartiale en RDC? Vos actions sont les bienvenus sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Vous pouvez aussi écrire à l'adresse pa@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs ou encore intervenir en direct en composant les 09-716-80-79. Deps Vita est à la mise en œuvre de ce magazine. Elise Kavira sur la réalisation, la coordination. Nelson Nombé est là pour l'équipe multimédia. Au micro, c'est Marcel Ngombala. À toutes et à tous. Et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport
Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Les intouchables, dans ces pays, n'existent pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la paix. Merci de nous suivre partout où vous êtes en République démocratique du Congo. Merci également de nous suivre sur les plateformes digitales de Radio Capi, à savoir X, YouTube et Facebook. Nous allons donc parler aujourd'hui de qu'est-ce que l'année de l'indépendance de la justice congolaise. On se rappellera qu'au mois de novembre de l'année dernière, 359 résolutions ont été issues des états généraux de la justice qui sont tenus à Kinshasa. Tout un canevas a été adopté pour la mise en œuvre de ces résolutions dont certaines sont déjà d'application. Il s'agit notamment du décret de rénovation des nouvelles inspectorats des services judiciaires et pénitentiaires, de l'adoption en conseil des ministres du projet de loi portant création du tribunal économique et financier. Et cependant, au cours des 6 assises, l'une de propositions phares qui est celle de remplacer les conseils supérieurs de la magistrature par les conseils supérieurs de la justice dans lequel siégerait entre autres le président de la République et le ministre de la Justice aux côtés des magistrats n'avait pas fait l'unanimité parmi les participants. Cette proposition a été contestée par les syndicats du magistrat estimant que cela remettra en question l'indépendance de la magistrature. À ces jours, à la lumière de la polémique suscitée dans l'affaire Constant Mutamba accusé des détournements présumés de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani, certains analystes politiques estime qu'il a nécessité de réformer davantage la justice congolaise. En effet, dans une lettre adressée le 10 juin dernier au procureur général près la Cour de cassation, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, refusait que son dossier soit traité par le chef du parquet et ses magistrats au motif d'une partialité et inimitié à son égard, une récusation qualifiée par le parquet général de manœuvre dilatoire, ce qui relance le débat sur l'impartialité de la justice congolaise aussi bien pour les citoyens lambda que pour des personnes ayant certains privilèges au vu de l'opposition question sociale ou politique. Vous avez été nombreux à réagir par rapport à cette question. Et comme toujours, on aura l'occasion de lire quelques-unes de vos réactions au cours de ce magazine. Et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir dans ces studios Maître Dieudonné Tshibaba. Bonjour Maître.
Bonjour Marcel et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capital.
Encore une fois, merci de répondre à notre invitation pour aborder cette question. Sur l'indépendance de la magistrature de la justice congolaise après la tenue des états généraux au mois de novembre de l'année dernière. Alors, dites-nous Maître, à ce jour, quelle analyse faites-vous de ce qui est de l'indépendance de la justice congolaise? On se rappelle qu'il s'est tenu à des états généraux de la justice où il y a beaucoup de résolutions qui ont des recommandations après à ces assises. C'est vrai, il y a certaines d'entre elles qui sont déjà d'application, mais il y a également cette grande question du remplacement de cette grande proposition du remplacement du Conseil supérieur de la magistrature par le Conseil supérieur de la justice qui n'avait pas fait l'unanimité.
Je crois qu'il est d'abord important de fixer qu'est-ce que la justice. Ou bien, dans tout État moderne et démocratique, il y a trois pouvoirs qui fonctionnent de manière autonome, indépendante. Vous avez le pouvoir exécutif, donc celui qui est symbolisé par le gouvernement, ce qu'on appelle exécutif. Vous avez le pouvoir législatif, donc qui est pris en charge par l'Assemblée parlementaire ou bien le Parlement, le Sénat. Vous avez le pouvoir judiciaire. Et ce pouvoir-là, qui veille justement à ce que les choses se fassent correctement et sanctionne en cas où on n'a pas respecté tout ce qui a été fait par les autres pouvoirs. C'est le pouvoir judiciaire. Et ce pouvoir est autonome, indépendant, est impartial. Et ce pouvoir constitue l'ordre judiciaire. Et l'importance du pouvoir judiciaire, c'est que c'est le socle d'un état de droit. C'est ainsi que le pouvoir judiciaire a en son sein des personnes, bien des juridictions, qui ont la justice. On a souvent l'habitude de dire que la justice élève une nation. Et moi je dis, mais quand il n'y a pas de justice, il y a l'injustice, la nation est abaissée. C'est important de fixer l'importance du pouvoir judiciaire. C'est un troisième pouvoir qui doit fonctionner correctement à côté des deux autres pouvoirs. Mais vous savez, on dit généralement qu'il y a aussi un quatrième pouvoir qui est le vôtre. On parle des médias.
Oui, le pouvoir de la presse. La presse,
voilà. Maintenant, je dirais qu'il y a même un cinquième pouvoir qui est depuis quelques temps, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. Qui est encore, voilà, on peut étendre médias, mais pour réseaux sociaux, c'est encore beaucoup plus accentué parce qu'ils peuvent vous infléchir d'un côté à l'autre. Ou soit, je reviens. Alors, la justice. Le constat au niveau de notre justice, bien notre pouvoir judiciaire, à plusieurs reprises, et le chef de l'État lui-même, qui est le magistrat suprême, a fait le constat, c'est qu'on dit que notre justice a un problème. La justice est malade. Mais elle n'est pas malade d'aujourd'hui. Et les maux de la justice traînent depuis des décennies. Je vous recommande de lire le livre de l'ancien Premier ministre, M. Léon Kengwadondo, qui a fait les trois pouvoirs, et qui, déjà en 67-68, il avait comme mission de mettre de l'ordre dans la justice. Donc, pour vous dire. Son livre, c'est la passion de l'État. Donc, pour dire que les problèmes existent, mais à chaque niveau de problème, il faut, bien à chaque niveau de maladie, il faut trouver des remèdes, il faut trouver des solutions. Mais actuellement, nous nous rendons compte que la maladie est allée trop loin, au point que les administrés, bien les justiciables, n'ont plus confiance en la justice. Comment refaire cette confiance? Mais là où nous nous trompons souvent, c'est que quand on parle de la justice, on identifie simplement la magistrature, ce qui n'est pas vrai. La justice est un ensemble dont fait partie la magistrature. Vous avez ceux qui sont les auxiliaires de justice qui existent, qui font partie de la justice. Vous avez des comme l'ordre des avocats, ils participent à la bonne administration de la justice. Vous avez l'ordre des huissiers de justice. Vous avez les greffiers de justice. Vous avez, dans toutes ces corporations, participent à la bonne administration de la justice. Et vous avez les magistrats qui, eux, veillent et rendent des jugements. Donc c'est important. Alors, au niveau de la magistrature, c'est là où il faut savoir que dans l'ordre judiciaire, vous avez les cours et tribunaux. Vous avez les tribunaux civils, les cours et tribunaux d'ordre militaire, vous avez des cours, vous avez les cours des juridictions administratives. Tout ça, ça constitue l'ordre judiciaire qui a son fonctionnement. Et c'est ainsi que pour le bon fonctionnement de l'ordre judiciaire, notre Constitution avait trouvé mieux d'établir un organe qui, lui, va veiller à comme mission d'ordonner cette, de mettre de l'ordre au niveau de l'ordre judiciaire. C'est ça qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature. Mais ici, on s'est inspiré. Le constituant congolais s'est inspiré de ce qui s'est passé en France. Parce qu'en France, il y a aussi un conseil supérieur de la magistrature qui, lui, veille au bon fonctionnement de l'ordre judiciaire, qui veille à la carrière des magistrats, qui veille qui établit les budgets pour la magistrature et qui a aussi un pouvoir disciplinaire. Mais, dans le système français, lorsqu'il a été conçu, le conseil supérieur de la magistrature, on s'était dit non. Ce n'est pas simplement pour les magistrats, mais comme il s'agit de, on doit étendre ça à toute la justice, le président de la République française statuait comme président de la Cour suprême, du Conseil supérieur de la magistrature. Et ça a été modifié en 2008. Il est statué, il avait un adjoint. Et le garde des Sceaux, je crois aussi sans faire erreur, il est statué aussi. Garde des Sceaux qui est l'équivalent, qui est le ministre de la Justice. C'est le système français dont on s'en est inspiré. Et dans ce système actuellement, dans le Conseil supérieur de la magistrature, vous avez deux pôles. Vous avez le pôle qui concerne tout ce qui concerne les magistrats du siège, et vous avez ce Conseil des magistrats du parquet. Mais dans ces deux pôles-là, il faut savoir qu'il y a des personnalités qui ne sont pas des magistrats qui y siègent. Vous avez des représentants de l'ordre des avocats qui siègent, vous avez des personnalités qui sont désignées, choisies par le président de la République, il y en a qui sont choisies par l'Assemblée nationale, par le Sénat. Donc, vous comprenez, parce qu'il constitue la justice. Et si je me réfère aussi à ce qui se passe juste à côté de la France et en Belgique, parce que nous, le droit congolais était essentiellement calqué sur le droit belge au départ, là, eux ne sont pas partis sur le Conseil supérieur de la magistrature. Les droits belges, dans la Belgique, elle a institué ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la justice. Et moi, je m'aligne à cette vision.
Mais les magistrats, le syndicat des magistrats estime que ça, c'est un peu à remettre en question l'indépendance de la justice. Il y a ceux qui disent qu'au sein du Conseil supérieur de la magistrature, il n'y a que des magistrats, ils se protègent entre eux. Et il y a ceux qui pensent qu'il faut absolument qu'il y ait également d'autres membres au sein de ce conseil supérieur de la justice. Enfin, on estime qu'il faut passer du Conseil supérieur de la magistrature au Conseil supérieur de la justice, mais là, les syndicats n'est pas d'accord.
Mais c'est là que je suis en train de dire. Il faut respecter les magistrats. Les magistrats, ce sont des hauts fonctionnaires. Il faut les respecter. Dans tous les pays du monde, quand on parle d'un magistrat, un fonctionnaire, mais juste une personne respectée, respectable. Mais là où nous sommes en train de dire, c'est nous, le droit congolais n'a pas inventé le Conseil supérieur de la magistrature. On s'est inspiré, justement. Nous, on a calqué le système français. Mais dans le système français, je vous ai démontré qu'il y a des représentants du président, des personnes qui désignent, de l'Assemblée nationale, du Sénat, pour vous dire qu'il n'y a pas que des magistrats. Et en Belgique, c'est l'équivalent qui est le Conseil supérieur de la justice, parce que la justice, c'est un conseil, n'a pas que des magistrats. En ce qui concerne l'aspect disciplinaire, ça on comprend, on conçoit parfaitement que la magistrature puisse prendre le relais et faire son travail et s'occuper. Mais par rapport aux mots, c'est-à-dire aux difficultés que nous avons, il faudrait, moi je suis d'avis, qu'on réfléchisse sur un conseil supérieur de la justice, ou bien un haut conseil de la justice, à la limite. Mais on ne peut pas aujourd'hui voir le constat. Parce qu'est-ce qui se passe?
Mais maître, s'il vous plaît, parce que j'ai oublié de vous présenter, même au début de ce magazine, vous êtes analyste politique, mais vous êtes aussi avocat barreau des Kinshasa, Gombe et Kananarivo, RDC et de Bruxelles en Belgique. Alors, comment ça se passe en Belgique? Si on veut un peu on fait un peu une étude comparée, comment ça se passe?
C'est ça que je suis en train de vous dire.
Il faut bien expliquer pour que les gens comprennent.
Oui. Je voudrais dire que nous, le système belge, congolais est calqué généralement, ce système judiciaire est calqué au système belge.
Oui.
Mais en ce qui concerne l'organe supérieur de la, de niveau de la justice, la Belgique, elle, a institué le Conseil supérieur de la justice. Alors que ici au Congo, on a institué le Conseil supérieur de la magistrature, comme en France. Alors, en Belgique, le Conseil supérieur de la justice est constitué de 44 membres, dont 22 membres néerlandophones, parce que c'est un pays, vous savez, on a un problème linguistique en Belgique, et 22 membres francophones. Et parmi les 22 membres, ils sont encore subdivisés. 11 membres sont francophones, font partie de la magistrature. 11 membres ne sont pas de la magistrature. De même du côté des membres néerlandophones. Et parmi les membres qui ne sont pas dans la magistrature, vous avez des personnalités, des membres de la société civile, des professeurs, des experts. Donc, tout ça font partie, justement, de l'administration de la justice. Mais qui ne sont pas forcément de magistrats, eux, ils constituent le Conseil supérieur de la justice. Et en France, où on s'est inspiré du terme Conseil supérieur de la magistrature, eux, ils ont deux formations. Il y a ce qu'on appelle les magistrats du siège, donc les juges, et il y a le magistrat du parquet, tout ce qui concerne le parquet. Et eux, dans ces deux formations-là, qui constituent le Conseil supérieur de la magistrature, vous avez des personnalités qui ne sont pas des magistrats de formation. C'est ça le système. Parce qu'on comprend que la justice ne concerne pas que les magistrats. Je comprends la crainte que nous pouvons avoir, parce qu'on peut parler de l'indépendance de la magistrature. Mais non! Le fait d'instituer un organe qui chapeaute la justice, ça n'est pas forcément violer l'indépendance de la justice. C'est ça la différence. Parce que les magistrats sont autonomes dans leur position, dans leur travail. Magistrats, que ce soit du siège, même ceux qui sont du parquet. Et c'est là où il y a cette confusion. On parle du pouvoir d'injonction du ministre de la Justice, généralement j'entends parler, mais quel est son pouvoir d'injonction? Il ne devait pas avoir un pouvoir d'injonction sur les magistrats du siège, non. Mais lui, il peut avoir un certain pouvoir, dans une certaine mesure, sur le parquet. Et d'ailleurs, dans la ratio législative, dans la pensée du législateur congolais, le Conseil supérieur de la magistrature était là pour assister le chef de l'État qui est le garant du bon fonctionnement des institutions et qui doit veiller sur l'indépendance de l'autorité judiciaire. Donc, c'est même institut. Donc, voilà, il ne faut pas qu'on ait peur. Parce qu'ici, nous parlons de la justice. On ne parle pas uniquement de la magistrature qui est un corps et qui a aussi ses règles bien constituées. Et c'est ça la différence.
Donc, c'est des précisions qu'il fallait vraiment apporter à l'audit. Nous, maintenant, prenons le cas de récusation. Parce que là, maintenant, on a suivi l'exemple dans l'affaire Constant Mutamba qui a écrit au procureur général près la Cour de cassation qui refusait que son dossier soit traité par les chefs du parquet, ses magistrats, au motif d'une partialité et d'imitié à son égard. Cette récusation a été qualifiée par les parquets généraux des manœuvres de la Toile. La grande question maintenant qu'on se pose, l'impartialité de la justice congolaise, aussi bien pour les citoyens lambda que pour des personnes ayant certains privilèges au vu de leur position sociale ou politique. Qu'est-ce qui doit être fait à ce moment-là?
Bon. L'article 12 de la Constitution congolaise est clair. Tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et tous les Congolais ont un droit égal à la protection de l'homme. Il faut le fixer. Tout le monde. Mais non, par rapport à certaines personnes, vu leur qualité, ils peuvent avoir des privilèges de juridiction. Mais en ce qui concerne l'application de la loi, tout le monde est égal. Maintenant, pour revenir au fait d'actualité, que je trouve un peu déplorable, il faut faire une distinction entre deux choses. Le ministre de Justice, qui est garde des Sceaux, dans notre configuration actuelle en droit congolais, n'est pas le supérieur hiérarchique direct du parquet. Ça a été, avec la réforme qui a été faite au Congo, mais il a un pouvoir d'injonction. C'est ainsi que le ministre pouvait écrire, donner injonction au parquet, instruire de poursuivre tel. Mais le parquet est autonome et indépendant. Et c'est un corps. Il fait partie de l'ordre judiciaire. Donc quand le parquet fait son travail, il le fait en toute indépendance. Mais là où il faut savoir, c'est que Le ministre de la Justice, maintenant, en tant qu'individu, a aussi droit à avoir l'égalité de la loi. C'est-à-dire que parmi cette égalité, il a le droit de voir son droit à la défense être préservé. Donc, s'il estime que mes droits garantis, mes droits fondamentaux, mes défenses ne sont pas préservés, donc j'ai le droit de mettre des doutes. Mais maintenant, là, se trouve le problème en droit congolais, c'est quoi ? Il n'est pas prévu de récuser le parquet, parce qu'on ne récuse que les magistrats du siège, les juges, mais pas le parquet. Le parquet, lui, il instruit. Il fait son travail à charge et à décharge. Il le fait en toute indépendance. Là, nous avons un sérieux problème. Quand on veut récuser le parquet, c'est tout un corps. Mais comment vous allez instituer ce corps parce qu'il n'a pas de plan B ? On n'a rien prévu par rapport à ça.
Donc voilà pourquoi on estime qu'il faut davantage encore de réformes.
Non, les réformes doivent être à tous les niveaux. Moi, j'ai écrit sur les réformes en droit congolais. Je vous dis qu'il faut réfléchir. Ça, c'est un cas qui fera jurisprudence. Parce qu'on ne peut pas récuser le parquet comme ça. On peut récuser les individus, oui. Mais c'est un corps. Donc, on doit dissocier les individus du corps ou des institutions. C'est là où se trouve le problème. Autant la personne qui est poursuivie a le droit d'être défendue, le droit de voir ses intérêts être défendus, autant aussi on doit respecter la loi. Donc c'est un peu la difficulté que nous pouvons avoir dans ce genre de cas. Mais maintenant, si le parquet a suivi donc les voies légales, en ce qui concerne les cas, parce qu'un ministre en activité, un ministre du gouvernement ne peut pas être poursuivi sans avoir l'aval, sans que le parquet ait l'aval pour la levée des immunités. S'il a suivi le parcours légal à l'Assemblée nationale et qu'il y a cette levée des immunités, c'est là où la loi justement dit que le ministre doit être prévu, qu'il doit présenter sa démission, c'est qui est le cas. Maintenant, à lui de se défendre. Je n'oublie pas que je dis que nous sommes tous égaux devant la loi. Donc il faut qu'on garantisse son droit de se défendre devant des juges qui doivent être un juge impartial, indépendant. Donc il n'y a pas de règlement de compte. Et tout ça, on doit veiller sur... C'est ça la bonne administration de la justice. On doit veiller sur tout ça. Il a le droit de se défendre. Nous avons vu dans d'autres cas où il y a des personnes qui sont poursuivies ou bien qui sont soupçonnées. Eux-mêmes demandent la levée de leur immunité pour pouvoir se défendre. Quand vous vous défendez devant des juges qui font correctement leur travail, si on ne trouve pas des raisons de vous condamner, on ne vous condamne pas, vous êtes acquitté. Dans ce pays, nous avons, n'est-ce pas, qu'on a même des personnes qui ont été condamnées, et comme notre pays est organisé, un système légal, un système démocratique, on a des voies de recours, et vous pouvez aller, si un juge ne vous satisfait pas, vous allez à un double dégueulasse de juridiction. Voilà, si vous devez faire valoir vos droits, c'est vrai que la justice des hommes n'est pas perfectible, elle n'est pas plutôt infaillible, mais quand vous avez le droit de vos côtés, voilà, ça va vous aider. Mais chacun doit pouvoir se défendre.
Voilà, maître, permettez, voilà. On va ouvrir le standard et on va poursuivre avec vous. Il y a déjà des auditeurs qui aimeraient intervenir. Franck, qui nous appelle depuis Vienne en Autriche, à Mosbici, moi, qui est à Bukavu, maître Patrick Odia, qui est à Lubumbashi. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix. C'est votre magazine d'échange citoyen parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de cette année de l'indépendance de la justice congolaise. Si vous voulez intervenir, composez les zones 9-7-6-80-79.
Parole aux auditeurs.
Franck, vous êtes en ligne depuis Vienne. On vous écoute, Franck, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup pour la parole. Bonjour à votre studio, bonjour à l'invité. Je viens de les suivre avec beaucoup de considération et attention. Je l'ai compris. Mais personnellement, je trouve qu'il y a d'abord deux grandes observations à faire pour comprendre aussi pourquoi certaines choses ne marchent pas chez nous. La première observation concerne d'abord notre culture du non-respect des textes légaux qui nous régissent à beaucoup de niveaux. Nous avons des textes, nous avons des lois, mais ces lois-là sont parfois ignorées. Et quand, par exemple, il y a des états généraux ici et là, il y a des recommandations qui émanent des directives, des observations, des résolutions, mais on a de la peine pour les matérialiser parce que chacun cherche d'abord à tirer la couverture de son côté. La deuxième grande observation, c'est la politisation de tout ce qui se fait. Parce que au niveau d'un État, la justice doit fonctionner, il y a la politique, il y a l'économie, mais seulement l'ampleur du politique par rapport aux autres, ça prend des proportions indescriptibles. Alors parfois, on cherche même à politiser certains domaines techniques qui devaient fonctionner sans beaucoup d'interférences venant du politique. Alors déjà, avec ces deux grandes observations, l'homme congolais, dans l'ensemble, qu'il soit juriste, qu'il soit politique, qu'il soit économiste, dans la plupart des cas, il a de la peine pour se soumettre à certaines lois qui doivent régir les sociales, les vécus quotidiens, là où il se rend compte que l'application de cette loi ne va pas lui octroyer toutes les faveurs et tous les calculs par rapport à son être. Et du coup, avec cet état d'esprit, avec cet élan, on a de la peine pour faire fonctionner certains services. Je viens de suivre Maître Dieudonné, il a très bien expliqué comment ça se passe en Belgique, comment ça se passe en France. Mais là, je crois que ce qu'il doit aussi comprendre, c'est que au Congo, si ça ne marche pas, ce ne sont pas seulement des bons textes qui manquent, mais c'est d'abord l'homme congolais qui pose autant de problèmes. Il a essayé de spécifier comment en France on parle du Conseil supérieur de la magistrature, en Belgique de la justice, mais je crois que tout ça, ce sont des terminologies techniques, scientifiques, qui peuvent bien marcher s'il y a des hommes capables qui se décident, qui se déterminent pour les faire appliquer. Mais du moment où nous avons des intellectuels, nous avons des citoyens, nous avons des politiques qui n'ont de conception de loi que par rapport à leurs calculs, mais c'est là où tout est difficile. Alors, quand il y a un problème, au lieu de chercher à faire primer toutes les lois de la République pour le bon rayonnement de l'État, chacun cherche à faire prévaloir toutes ces lois d'abord par rapport à ce que lui veut. Alors, donc, ce ne sont plus des lois qui nous régissent, mais ce sont des desiderata, des ambitions de tel ou tel. Ça peut être au niveau individuel, ça peut être au niveau des regroupements politiques, ça peut être au niveau des calculs des états-majors. Et c'est cette politisation-là, sur base de notre égoïsme, qui pose autant de problèmes. Alors, si nous devons revoir l'actuel débat qui nous pousse à intervenir aujourd'hui, mais on se rend seulement compte que si de part et d'autre, on avait la culture de nous soumettre à nos textes, le ministre de la Justice devait aussi suivre la procédure normale par rapport aux prérogatives qui sont siennes. Mais comme partout, chacun cherche à imposer cette loi qui lui donne autant de faveurs, et ça crée un peu de nervosité ici et là, et quand il y a des interpellations, tout est politisé, et quand tout est politisé, c'est chacun qui veut chercher à faire primer ce qu'il lui veut. Alors, les lois peuvent être là, mais quand on se met à les interpréter, même des grands professeurs, ils arrivent quand même à se dédire, à se contredire par rapport à ce qu'ils venaient de dire hier.
Voilà.
Alors, de plus en plus, on se demande, est-ce que l'homme congolais est d'abord conscient que sans sa bonne volonté, sans sa détermination, rien ne marcherait. Et tant qu'on va continuer à raisonner comme ça, on ne ferait que du surplace et nous reviendrons sur vos
ondes
pour dire et répéter ce qu'on a toujours dit, mais on n'ira pas assez loin.
Merci beaucoup à Franck depuis Vienne pour vous. On peut mener autant de réformes qu'on voudra, on peut avoir des bons textes qu'on voudra, mais aussi longtemps que l'homme congolais ne changera pas, ne respectera pas ce texte, rien ne marchera. Merci Franck d'avoir appelé depuis Vienne en Autriche. Amos, ici, moi, vous êtes à Bukavu, ici, en RDC. Amos, on vous écoute, vous avez la parole.
Ah oui, bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs, de la radio Okapi, bonjour à l'invité. En fait, je suis totalement d'accord avec mon ami Franck, le premier intervenant. Comme on le dit souvent, la justice élève la nation, ce qui n'est pas le cas actuellement dans notre pays, parce que nous n'avons pas un problème de texte, mais nous avons un problème de l'homme, l'homme congolais, et vous venez de le dire. On peut faire des réformes et des réformes, mais tant que l'homme congolais ne changera pas sa manière de faire, il ne changera pas sa mentalité, il fait tout d'une manière politique pour protéger ses intérêts. Il verra tout au nom de sa tribu, au nom de sa géopolitique, au nom de sa famille. Rien ne changera sur le plan juridique. Moi, je me dis, on a parlé de réformes, oui. Mais comment comprendre que dans un même pays, j'y vais avec des cas concrets, on a dit, on ne peut pas condamner Nicolas Kevedi avec des juger avec des immunités. On a vu la procédure qui a été entamée au niveau de l'Assemblée, même si elle a échoué. C'était le même cas pour Mutamba. Il fallait d'abord qu'on enlève ses immunités. Mais pour Matata, lui, il a été condamné avec ses immunités. Comment comprendre ce genre de choses? C'est du n'importe quoi. Avec le dossier Matata, on dit qu'il avait détourné l'argent de Bukangalonzo sous le régime de Kabila. Nous tous ça nous connaissons. Mais on laisse Boshab, qui avait dit que 32 millions seraient tombés dans le fleuve Congo. On laisse l'autre là actuellement avec l'argent du fibre optique. Ça ne va pas. Comment on peut avoir dans un même pays une justice qui fonctionne à double vitesse? Ça ne passe pas. On est en train de suivre même ce qui se passe au niveau de la justice militaire. On a suivi ce qu'on avait reproché au général Tshiwewe était encore au Nord Kivu. Abandon des fronts, on aurait même parlé de détournement de soldes militaires. Lui, il circule librement à Kinshasa. Mais avec le général Léav accusé de même fait, il croupit déjà en dolo. Non, avec de tels actes, moi je pense qu'on ne peut pas parler d'une bonne justice dans notre pays.
Voilà,
je pense
voilà.
Comme Franck venait de le dire,
oui.
Il nous faut vraiment des hommes qui comprennent que la patrie passe avant tout et que nous n'avons pas de pays. Nous n'avons que la RDC comme pays. Il y a beaucoup d'autres questions avec la question des rames. Le ministre Kibasa qui était à la tête de cette question, où on a escroqué tous les Congolais, y compris vous-même, Marcel, vous en avez été victime. Il y a la question de Tène Longondo et autres. Mais pourquoi la justice doit seulement se fier sur certains individus?
Voilà, merci.
Et laisser d'autres.
Merci, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Amos Bissimwa. Donc, pour vous, il s'agit d'une justice de vitesse. Mais nous l'avons dit, il y a des états généraux de la justice qui se sont tenus l'année dernière, au mois de novembre, pour justement voir comment réformer cette justice. Il y a des résolutions qui ont été issues de ces états généraux de la justice. On attend de voir comment va commencer va se faire la mise en œuvre de toutes ces résolutions. Mais il y en a déjà, comme je le dis, qui sont déjà mises en œuvre, notamment le décret de rénovation des nouvelles inspectorats des services judiciaires et pénitentiaires, l'adoption en conseil des ministres du projet de loi portant création du tribunal pénal économique et financier. Et comme vous le savez, il avait cette proposition sur le remplacement du conseil supérieur de la magistrature par un conseil supérieur de la justice qui n'a pas fait l'unanimité. Voilà. Excusez-moi, merci. Amos Bissimwa d'avoir appelé depuis Bukavu à Lubumbashi. Maître Patrick Odette en ligne. Bonjour, maître.
Bonjour, Marcel. Bonjour à Maître Dédonné qui vous voit et à tous les auditeurs de la Radio Capi.
On vous écoute,
Maître Patrick. Merci de m'associer à ce niveau du débat. Certainement, merci de m'associer à ce niveau du débat. Premièrement, je voulais poser les jalons. Première des choses, il faudrait penser, j'allais dire, à changer certaines têtes à la tête de la justice, des institutions judiciaires, pour essayer d'insuffler un vent nouveau. Et notamment, à l'occurrence, le procureur général près de la Cour de cassation, le premier président, la Cour constitutionnelle, il faut qu'il y ait un changement. Ça, je voulais les dire.
Maître Patrick, c'est bien, c'est votre avis, mais je veux bien qu'on reste sur les idées. Je veux bien qu'on reste sur des mécanismes à mettre en place, plutôt que de parler à des individus. Ça nous permettra d'aller de l'avant, Maître Patrick. Allez-y.
Marcel, la question, je suis dans les sujets. La question parle de la lettre de Mutamba contre le procureur général, la réquisition et autres. Voilà pourquoi je commence par là, pour vous démontrer les erreurs fâcheuses qui ont été commises par le procureur général. Première erreur, Marcel, ou première légèreté, si vous voulez, dans cette affaire, le procureur général devrait, selon les prescrits des articles 50 et 59, notamment de la loi sur l'organisation et compétences judiciaires, prendre une ordonnance motivée, Marcel,
pour répliquer à la requête de Moutam. Mais le procureur a agi par quel acte? Ça, c'est la première légèreté. Il ordonne à son directeur de cabinet. Est-ce qu'en droit, au regard des dispositions précitées, 59 et 50, est-ce qu'on dit que le procureur général, lorsqu'il manœuvre, même si un argument dilatoire a été soulevé par une partie au procès, parce que dans les cas d'espèce, Moutamba est parti au procès. Et il peut user de tous les moyens de droit ou de fait pour essayer de s'éturer ou d'être innocenté également. Mais c'est au procureur général de pouvoir prendre par une ordonnance motivée. Première légèreté. Deuxième légèreté, Marcel. Au lieu que le procureur général, chef Yari, qui réponde à la requête de Moutamba par une ordonnance motivée, enfin un droit, il charge son directeur de cabinet qui conçoit une simple correspondance, sans aucune motivation.
Maître Patrick, la question est de savoir, à l'heure actuelle, quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place? Parce que nous l'avons dit, beaucoup ont fustigé le fait que le Conseil supérieur de la magistrature soit là pour porter le magistrat. On a pensé qu'il faut un Conseil supérieur de la justice où il y aurait, pourrait siéger le président de la République, pourrait siéger le ministre de la justice et autres personnalités à sommet de la société civile pour faire en sorte que le magistrat ne soit pas une forme de coopération qui se protège parce que la justice et pas seulement la magistrature. Mais non, la question c'est de savoir, au vu de tout ce qui se passe au sein de la justice congolaise, est-ce que vous pensez, vous, que le Conseil supérieur de la justice, si on élargit ça à d'autres personnes, pourrait peut-être également aider à ce que la justice puisse bien faire son travail?
Certainement. Les réformes initiées par M. Moutamba, bien que je ne sois pas d'accord avec sa manière de faire des choses, oui. Mais dans les cas sous examen, les réformes qu'il a pu initier, je suis juriste, je suis praticien, j'essaie des cas, je parle. Et même Maître Diouf-Tibouawa qui est dans les studios, il connaît comment les méandres. Vous pouvez avoir raison, mais si vous n'avez pas de l'argent, je vous dis, les magistrats vont vous bouffer et la décision ne sera pas de votre côté. Alors, qu'est-ce faire ou quels sont les mécanismes, Marcel? Je le disais quelque part encore, j'ai dit, les cas Moutamba Nvonde appellent à un paradigme d'intentivité, de l'ekelata, c'est-à-dire des réformes. Et ces réformes appellent en premier lieu, d'abord, les changements du Conseil supérieur de la magistrature en Conseil supérieur de la justice, avec cette fois-ci l'entrée du ministre de la Justice, mais aussi du président de la République, qui est le garant, on l'appelle bien le garant des institutions, le magistrat suprême, tous ces titres honorifiques, même si je ne suis pas d'accord également. Mais il faudrait qu'il entre également dedans, parce qu'il s'assure du bon fonctionnement des institutions. Toutes les institutions, il faudrait qu'il soit dans les conseils supérieurs de la magistrature et dans le conseil supérieur de la justice. C'est ainsi que nous sommes d'accord avec les professeurs Tubankala et les autres, qui prennent cette approche de la réforme, d'abord à ce niveau-là, pour permettre qu'il n'y ait pas une certaine solidarité négative, Marcel. Je l'ai dit autrefois. Oui. Parce que les magistrats entre et conseil supérieur des magistrats, c'est difficile de sanctionner un autre haut magistrat. C'est très difficile. Je parle sur le contrôle d'un aîné, Maître Tubob. Il connaît de quoi je parle. C'est très difficile de voir un haut magistrat être sanctionné, même pour une faute lourdement commise dans l'exercice de ses fonctions. Alors, pour ce faire, s'il y a la présence du ministre de la Justice, et s'il y a la présence du chef de l'État garant des bons fonctionnements des institutions, je pense que ça permettrait également à essayer de donner la paire dans le chef de certains magistrats, même s'il y aurait des fautes également, ils prendront le courage parce qu'il y a la présence du chef pour sanctionner également. Alors, vous parlez des 350 quelques, propositions qui ont été faites. Je le disais tantôt que c'était un mort-né. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà d'abord un combat entre la magistrature et le ministre de la Justice. Et à ces jours, il n'est plus là ou il n'est pas là, et vous savez, vous avez suivi son adieu, qui semble ne pas être également dans sa logique également. Mais où est la suite réservée à la mise en œuvre de toutes ces propositions qui ont été faites pendant 10 jours, 5 jours également?
Voilà, merci.
Est-ce que le chef de l'État a-t-il mis en place un peu une commission, par exemple, oui. Je vais citer, une commission, par exemple, pour l'évaluation de la mise en œuvre? Et c'est ici où nous l'interpellons, qu'il mette une commission pour évaluer la mise en œuvre. Où en sommes-nous avec les propositions qui ont été faites des États généraux, notamment même de 2013 avec Nzolobandi, même avec Moutamba également? C'est ici de pouvoir, l'endroit de pouvoir l'interpeller à faire une commission pour permettre
d'accélérer
également. Mais nous soutenons également le Conseil supérieur de la justice le Conseil supérieur de la justice avec l'entrée du chef de l'État et des ministres de la justice.
Voilà, merci. Là, merci beaucoup. Vous l'avez déjà dit, Maître Patrick Odia, merci d'avoir appelé depuis le Lubumbashi. Avant d'accorder la parole à Christian Kassissé qui nous appelle de Kampala, je m'en vais lire ses réactions de Merveille à Billy sur la page Facebook parole aux auditeurs. En RDC, la question de l'indépendance des magistrats nous les juristes aujourd'hui. Certains sont d'accord pour une justice indépendante et certains disent que Samy le magistrat a fait tout ce qu'il veut selon son estime et non selon la loi. À mon humble avis, tous les magistrats savent que l'indépendance du magistrat ne doit pas être considérée comme un privilège ou un libertinage, car le libertinage a une grande différence avec l'indépendance des magistrats. Le libertinage, c'est de faire au-delà de ce qui est prévu par la loi, tandis que l'indépendance est tirée du respect de la loi, de son application vis-à-vis de tous. Cependant, en RDC, le principe de l'indépendance du magistrat est constitutionnel. Par contre, nous constatons parfois, dans la pratique, l'indépendance fait le magistrat aujourd'hui comme un roi, afin de montrer sa vengeance, son égoïsme vis-à-vis des justiciables. L'indépendance devenue chez certains magistrats comme un lieu de refuge, un slogan pour se défendre en cas d'abus. Pour clore, à mon humble avis, le mécanisme pour améliorer ou renforcer la justice congolaise à être impartiale, nous estimons qu'il faut mettre l'accent sur la dépolitisation du recrutement des magistrats. Aucun membre de la famille des magistrats peut faire l'objet d'une appartenance à un parti politique. Il faut qu'il y ait des sanctions disciplinaires sévères en cas d'abus. Voilà, ça c'était la réaction de Merveille. Abili depuis la ville de Kisangani. On revient au standard pour écouter Christian Kassissé qui nous appelle depuis Kampala. Christian, vous avez la parole.
Oui, merci cher Marcel pour la parole accordée, mes salutations à l'invité. Je voudrais en préliminaire dire d'abord que toute réforme de la justice normalement consisterait ou aurait pour finalité la bonne administration de la justice, laquelle sûrement peut également parvenir ou aboutir à l'indépendance de la justice. Mais il n'y a pas que l'indépendance de la justice dont on a besoin pour construire un état de droit. Nous avons également besoin de l'indépendance de tous les autres pouvoirs, c'est-à-dire judiciaire, exécutif et législatif. Est-ce qu'aujourd'hui le pouvoir législatif est indépendant, exécutif? Non. Il en réside également que le pouvoir judiciaire aujourd'hui puisse aussi souffrir de cette anormalité. Mais je voudrais d'abord tout dire ici que s'il faut demander les mécanismes doivent être lesquels? Ce sont des mécanismes structurels. Aujourd'hui, il faut vous poser la question, pourquoi la justice congolaise est malade? Il y a une étude récente qui démontre d'ailleurs que plus de 50% des magistrats congolais sont concentrés à Kinshasa. Et je vous en parle sous le contrôle également du maître qui est l'invité du jour, qu'aujourd'hui, parler de la réforme de la justice, je ne crois même pas qu'il y a nécessité. Il faut plutôt d'abord mettre en œuvre ce qui est prévu. Aujourd'hui, on vous parle des désengorgements de prison. Mais pourquoi on ne pouvait pas juger des juges du tribunal de grande instance qui aujourd'hui se retrouvent en train de connaître trop de juridictionnels? Je cite les tribunaux de travail, les tribunaux de commerce, les tribunaux administratifs. Aujourd'hui, ils ne sont pas installés. Mais quand on parle de réforme, quelle réforme il faut parler? Il faut d'abord mettre en œuvre ce qui était prévu et après nous en tirerons les conclusions. Outre cela également, aujourd'hui, moi, finalement, dit que les conclusions ou les résolutions prises lors des derniers étages.
Oh là là, des soucis avec la liaison.
Passerait par.
On a quelques soucis, hein, Christian, essayez de vous déplacer rapidement, vous encore une minute, hein, on a quelques soucis avec votre ligne téléphonique, hein, essayez de vous déplacer, puis allez-y, vous avez la parole.
Je continue en disant qu'aujourd'hui, on veut attribuer le dysfonctionnement de la justice congolaise par un pouvoir disciplinaire qu'aurait le pouvoir exécutif sur les magistrats. Mais ce projet-là a été celui du professeur Gary Sakata et Obé Minako. Et tous, on sait comment ce projet-là avait enflammé toute la classe politique et surtout la classe dirigeante actuelle. Mais c'est comme si aujourd'hui, on veut croire que quand Félix Tshisekedi dit avec son dialéliste Mutamba, ça suffit. Mais dans aucun état de droit, vous verrez un pouvoir exécutif a le pouvoir de sanctionner les magistrats. Non, aujourd'hui, on ne veut pas de corps.
Voilà, merci Christian Cassissi d'avoir appelé depuis Kampala. On va prendre le deux derniers auditeurs et puis on va conclure avec notre invité. Nous avons Marco Odi qui nous appelle depuis Kisangani et puis Eminent Manda qui est à Bukavu. Marco, vous avez en tout cas une minute, hein, parce que l'essentiel, je pense bien, a été déjà dit, à moins que vous ayez quelque chose à compléter par rapport à ça. Allez-y Marco, pour une minute, allez-y.
Allô, bonjour, je salue aussi l'invité. Ma question est celle-ci. Je suis Marco Odé depuis la ville de Kisangani. Quels sont les véritables blocages qui empêchent aujourd'hui l'indépendance et le bon fonctionnement de la justice dans notre pays? Et quelles réformes institutionnelles faudrait-il envisager pour finir une justice qualifiée de malade?
Voilà, merci Marco Odé depuis Kisangani. L'invité va réagir rapidement par rapport à cela. Puis on prend le tout dernier, Eminent Mwanda, qui nous appelle depuis Bukavu. Eminent, vous avez la parole, à vous aussi. Je vous accorde une minute. Allez-y, Eminent.
Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Je voulais d'abord dire que c'est les réformes qu'avait apporté le ministre de la Justice et tout salutaire, mais avait manqué seulement de mesures d'accompagnement. C'est pour cela que cela doit toujours nous servir comme de modèle ou exemple. On ne saura pas dire que Moutamba n'avait rien fait, mais à l'époque, au stade où nous sommes avec les Congolaises, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais il fallait qu'il s'appuie d'abord. Avec ces réformes, il fallait bien s'appuyer au texte et aux lois du pays. C'est ce qui avait manqué pour que réforme là, monsieur le journaliste.
Voilà, merci beaucoup, Eminent Mwanda, depuis Bukavu. On va conclure avec notre invité. Maître, vous avez suivi, il y a Franck qui a insisté sur l'homme congolais. Hein. Il a dit, on a beau avoir de beaux textes aussi longtemps, l'homme congolais sera celui qu'on connaît. Rien ne marchera dans ce pays. C'est-à-dire, un homme qui reste, l'homme congolais ne respecte pas le texte. Les textes sont là, mais personne ne le respecte. Vous avez également suivi Marco Odé qui a posé cette question. De savoir quels sont les véritables blocages ce qui empêche l'indépendance de la justice congolaise et quelles sont les réformes et structures. Parce qu'on n'arrête pas de parler de réformes. Alors que dernièrement des états généraux.
Arcel, laisse encore moi quelques minutes.
Allez-y.
Il n'y a aucune justice dans ce monde qui est parfaite. Il faut le savoir. Même dans les états, entre guillemets, développés, je peux vous dire, moi qui suis un avocat, je suis avocat ici, je suis aussi avocat à l'étranger, en l'occurrence en Belgique, je peux vous dire que de fois on se pose la question sur les juges. Voilà. Pour vous dire que, je ne parle pas du fait qu'ils sont corrompus, je parle simplement sur les failles. Voilà, aujourd'hui nous jetons la pierre sur la justice congolaise, c'est pas parce que c'est pas tant. Mais je veux dire une chose. Pour une fois, je vais prendre la défense des magistrats. Je vous dirai pourquoi. On dit que les magistrats sont corrompus. Mais pour qu'il y ait un corrompu, il faut qu'il y ait un corrupteur. Qui est corrupteur? Il y a des personnes qui, elles-mêmes, sont derrière les magistrats pour les corrompre. Et je fais partie d'une corporation qui est des avocats. Il y a des avocats qu'on appelle des avocats véreux, qui sont même des grands spécialistes dans la corruption. Donc, allez, il ne faut pas simplement voir le problème d'un côté. Nous disons que le problème est global. Au niveau de la magistrature, on peut réprocher. Notre corporation avocat, on peut réprocher. Les individus peuvent être réprochés parce que c'est un tout. Ça nous concerne tous. Moi, je pense que nous devons aller sur des solutions. C'est vrai qu'on parle de l'homme congolais. Mais tout à l'heure, j'ai commencé par dire que la justice est la vie de la nation. Et j'ai dit que la justice doit être indépendante. C'est-à-dire qu'il faut que chacun connaisse sa place. Un magistrat, un juge, est un haut fonctionnaire. Je vous ai donné un texte biblique, permettez-moi de le dire, parce que je suis chrétien. Vous vous souvenez? J'étais dans deux chroniques. Si vous avez l'occasion de l'énoncer, on n'est pas dans une émission chrétienne, mais pour que ceux qui sont censés prononcer la justice comprennent l'importance qu'ils peuvent avoir dans un État, dans une société. Vous comprenez? Donc, c'est important. Maintenant, vous allez avoir l'occasion.
C'est pas deux chroniques 19.5. Tout à fait.
Vous venez rapidement, juste.
Le plus important, c'est de savoir que même la Bible parle de cela. Pour ce qui est de magistrats.
Donc, quand on parle de magistrats, on dit qu'ils doivent rendre les jugements en craignant Dieu. C'est-à-dire, ils le font comme s'ils le font pour Dieu. Mais bon, maintenant, je respecte ceux qui ne sont pas croyants. Je parle à ceux qui sont croyants, surtout les chrétiens. Donc, la justice concerne tout le monde. Maintenant, moi, j'aimerais qu'on parle des réformes. Parce qu'aujourd'hui, au-delà, pourquoi nous en arrivons là? Il y a un auditeur qui a si bien dit, il y a la condition des magistrats. C'est vrai. Quand vous donnez les gens les moyens nécessaires pour vivre, ça peut réduire certaines choses. Quand vous les mettez dans les conditions normales, moi j'ai écrit sur la réforme de la justice congolaise, j'ai écrit dessus. Parce que je crois qu'on peut faire quelque chose. J'ai tout un sujet que je développe parce que moi c'est ma passion, la justice congolaise. Nous pouvons aujourd'hui adapter la justice aux réalités et aux nouvelles technologies. Vous savez ça. Aujourd'hui, allez dans les greffes, Vous allez voir que nous sommes encore au Moyen-Âge, désolé de le dire. Où nous fonctionnons encore, où même des jugements doivent être écrits en manuscrit. Pour avoir un jugement, vous devez payer. Mais ça ne se fait plus nulle part au XXIe siècle. Nous devons réformer la justice. La justice doit être réformée de manière profonde. Comment vous pouvez aller dans une juridiction où on ne sait même pas, il n'y a pas une base de données, où vous pouvez avoir dans la même juridiction la même personne qui a plusieurs procès parce qu'il n'y a pas une centrale. Une centrale plutôt qui peut centraliser les individus avec leurs affaires en cours. Donc, il y a plusieurs pistes. Il y a même des nouvelles juridictions qui doivent aujourd'hui être mises en place. Il y a même des nouveaux modes de résolution de conflits qu'on peut mettre en place, comme la médiation, autre. Comprenez ? C'est ça les réformes de la justice.
Les vrais blocages, maître. On a demandé les vrais blocages. Et ça fait partie des vrais blocages ?
Moi, je ne parle pas de blocage. Moi, j'ai simplement qu'il faut que des personnes habilitées soient là pour mettre en place cette réforme. Il faut des gens qui...
Je pense
que nous avons suffisamment des personnes intelligentes au Congo, en RDC, qui peuvent réformer. Au-delà du fait qu'on accuse X, Y personnes, nous ne limitons pas simplement au problème, mais allons vers des solutions pratiques. Je vais vous donner juste deux ou trois pistes que moi j'avais données, par exemple. C'est quand lancer par exemple un programme. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, on a reproché au ministre actuel, il n'a pas respecté la procédure en laissant sortir les prisonniers. Mais est-ce qu'on a déjà pensé en ce qui concerne, par exemple, les bracelets électroniques pour certains prisonniers? C'est une piste. Vous comprenez? Est-ce qu'on a déjà pensé, par exemple, à l'accessibilité à la justice? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas que nous sommes parmi les justices les plus chères au monde. Parce que vous devez payer beaucoup d'argent pour avoir un gain de cause. Est-ce qu'on a pensé à l'aide juridique, à performer l'aide juridique? Est-ce qu'on a pensé... J'ai tellement écrit sur la justice, la loi sur les statuts des judiciaires de justice. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, ils sont aussi, font une partie du problème. Parce que les judiciaires, certains huissiers, pas tous, en complicité avec certaines parties, peuvent arriver à vous signifier ou à vous inviter... Alors qu'on n'avait pas été touché en faisant croire qu'ils ont fait leur travail. Alors qu'on peut réformer en enjeunant les services communaux. Il y a pas mal de choses qu'on peut pour réformer la justice. Donc nous ne limitons pas au constat et aux problèmes, mais allons vers des solutions. D'où l'importance des états généraux. Là, je veux dire ceci. Vous savez, ça fait deux ans, trois ans, on a parlé des états généraux. Oui. Je suis tout à fait d'accord, j'ai même dit ça plusieurs fois, qu'on mette en place une commission permanente de suivi des états généraux et d'amélioration permanente. Il faut que le ministre de la Justice n'est pas l'ennemi de la magistrature. On doit doivent travailler ensemble. Tout le monde travaille ensemble, main dans la main, pour le bien-être de tous. Et surtout, quand on a l'amour pour ce pays, le Congo, chacun fait de son mieux pour que le pays aille de l'avant. Et n'oubliez pas...
Maître, vous insistez sur la réforme, mais vous avez suivi Franck dit, on peut bien avoir de bonnes réformes. Mais aussi longtemps, l'homme congolais restera tel qu'il est, c'est-à-dire n'est pas respecté le texte, quelqu'un qui veut vivre comme il entend lui, rien ne marchera.
Chacun aura des comptes à rendre à l'histoire en fonction de ce qu'il aura fait. Chacun est conscient de ce qu'il veut et ce qu'il veut faire pour son pays. Quand on aime le pays, on fait de son mieux. Voilà.
Il faut aimer son pays.
Bien que ça.
Merci beaucoup, Maître Dieudonné Tshibobwa. Je vous rappelle que vous êtes analyste politique et avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, Kananga, RDC et de Bruxelles, en Belgique. C'est encore un plaisir de vous avoir dans ce studio. On espère vous retrouver prochainement.
Le plaisir est partagé.
Et voilà, fin de ce numéro de Paroles aux auditeurs du séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Debsa Vittar qui est à la mise en nom d'Elise Kavira qui l'a réalisé et coordonné et à Nelson Nyobi de l'équipe. Équipe multimédia au micro, c'était Marcel Ngomoba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix. Au revoir à toutes et à tous.